Bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je veux aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre. Cette semaine, on va parler d'exercice physique dans une perspective d'enrichissement. Tout de suite, je veux commencer avec quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, que vous avez peut-être déjà vous-même répété, et c'est cette idée que 15 minutes de stimulation mentale équivaut 30 minutes d'exercice physique chez le chien. Je me souviens plus à quel endroit j'ai entendu ça pour la première fois, mais c'est vraiment une phrase que j'ai entendue répéter très souvent sous différentes formes. Mais cette idée que la stimulation mentale épuise davantage nos chiens que l'exercice physique. Et dans le cadre du podcast, je me suis dit, ah, ce serait intéressant d'aller investiguer ça et de savoir d'où ça vient. Parce que moi, je suis toujours dans une approche, justement, basée sur la science, basée sur les données. Et, à ma grande surprise, j'ai pas trouvé d'informations pour appuyer ces propos-là. Alors que c'est des propos que j'ai entendus répéter et répéter à maintes reprises et répétés par des spécialistes du comportement animal que je respecte absolument. Alors, j'ai deux choses à dire en lien avec ça. Premièrement, si vous avez de l'information sur les bases scientifiques de cette affirmation-là, j'apprécierais énormément si vous pouviez me contacter et me le partager. Ça, c'est la première chose. Et je sais pas trop comment je me suis rendue là dans ma vie, mais dernièrement, je me retrouve dans une situation où est-ce que je remets beaucoup en question les phrases accrocheuses qu'on entend passer par là sur le comportement animal. Et ça, c'en est un bon exemple. Mais que quand je fais des recherches, je trouve pas les fondements de ces phrases accrocheuses-là. Et je voudrais nous amener collectivement à avoir un esprit critique, de se poser des questions et de justement pas nécessairement accepter tout ce qu'on nous présente comme étant des faits, même si ça vient de personnes qu'on respecte. Et c'est aucunement pour diminuer la crédibilité des gens ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment plus pour amener cette rigueur-là. Et là, je dis pas que c'est le cas pour tous les entraîneurs en méthode positive, mais il y a beaucoup d'entraîneurs en méthode positive qui vont se réclamer de la science. Et je pense que quand on se réclame de la science, ben il faut que ce qu'on dit soit appuyé sur, justement, des données et des études scientifiques. Et là, à moins que je me trompe et que j'ai pas poussé mes recherches suffisamment, dans ce cas précis-là, j'ai pas trouvé les données pour appuyer cette affirmation-là que 15 minutes de stimulation mentale équivalerait à 30 minutes d'exercice physique. Et là, vous allez peut-être me dire, mais là, Audrey, là, Pourquoi tu nous parles de ça, là? Même s'il n'y a pas de données là, derrière ça, c'est pas bien grave, là. On le sait tous que on a tous eu cette expérience-là dans la vie de faire quelque chose mentalement puis que ça nous a drainé puis qu'on était fatigué après. Fait que c'est clair que faire de la stimulation mentale avec son chien, ça va l'épuiser. Fait que pourquoi tu t'en prends à cette affirmation-là? C'est parce que je vois de plus en plus de gens qui abandonnent l'exercice physique en justifiant qu'ils font de la stimulation mentale avec leur chien Donc, ils n'ont pas besoin de faire d'exercice physique. Ils font déjà de la stimulation mentale et ça, ça épuise plus leur chien que faire de l'exercice physique. Et je peux comprendre quand on a un chien réactif, par exemple, que c'est pas réaliste d'aller prendre une marche à tous les jours avec son chien. Puis même, je peux comprendre quand on n'a pas un chien réactif puis que c'est juste, c'est nous, là, en tant qu'être humain, qui a besoin d'un break puis qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité d'aller faire une marche avec notre chien. Je le comprends absolument, ça aussi. Mais là, ce que j'ai un problème, c'est quand on vient à éliminer complètement l'exercice physique de la vie de notre chien parce qu'on pense qu'en faisant de la stimulation mentale, on répond à tous ses besoins parce que l'exercice physique, ça demeure un besoin du chien, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et comme dans tout, je pense que c'est de trouver une harmonie. Et je préfère le mot « harmonie » à « équilibre » parce que je pense pas que c'est possible d'être équilibré. Vous me pardonnerez mon pessimisme, mais je pense pas que c'est possible d'être équilibré dans toutes les sphères de notre vie et dans toutes les sphères de la vie de notre chien. Donc, je pense qu'il faut plutôt essayer de trouver une harmonie. Donc justement, quand on a un chien réactif avec lequel c'est compliqué de sortir prendre des marches, ben comment on peut trouver l'harmonie dans notre quotidien pour quand même répondre à ses besoins? Je vous parlais tout à l'heure de mon désir qu'on ait des preuves scientifiques ou du moins des données résultant d'études scientifiques pour appuyer nos affirmations. Mais ce qu'on sait en tout cas au niveau de l'activité physique chez l'humain, c'est que ça a beaucoup de bénéfices sur la santé et que ça permet notamment de réduire l'anxiété. Donc, il serait pas totalement fou de croire qu'on pourrait avoir les mêmes bénéfices chez nos chiens. C'est pourquoi je pense que l'exercice physique doit faire partie de la vie de nos chiens. Bon, c'est sûr que le premier type d'exercice auquel tout le monde pense, c'est la marche. Parce que, ben, c'est probablement le type d'activité physique qu'on fait le plus avec notre chien. C'est aussi peut-être celui qui est le plus accessible pour la majorité des gens. Mais il y a plein d'autres types qui existent également. Bon, c'est sûr qu'on peut penser à faire de la randonnée pédestre de plusieurs kilomètres avec notre chien, à la course, comme le canicross, par exemple. Pour ce qui est de la marche et de la randonnée pédestre, c'est important pour moi de faire une distinction parce que quand je parle de marche, c'est la petite marche quotidienne qu'on prend avec notre chien. Puis quand je parle de randonnée pédestre, je parle plus de quelque chose où est-ce qu'on va marcher pendant plusieurs kilomètres parce que c'est pas la même dépense pour le chien, tant au niveau physique que probablement au niveau stimulation mentale, parce que si on marche plusieurs kilomètres, généralement, on va marcher dans des sentiers, en forêt, par exemple, et là, on a beaucoup plus de stimulation que quand c'est notre marche quotidienne où est-ce qu'on fait toujours le même tour de bloc. Donc, ça peut être une façon aussi, justement, d'amener de l'enrichissement dans nos marches quotidiennes, mais c'est de dire, la semaine dernière, je parlais de donner le choix à notre chien de choisir son itinéraire, mais ça peut être de dire, ben écoute, on va aller explorer un nouveau quartier, on va prendre l'auto, on va aller dans un nouveau quartier, comme ça, mon chien va être exposé à des nouvelles odeurs et tout. Donc, ça peut être un moyen de rendre la marche en tant que telle plus enrichissante. Il y a la course également, comme je disais tout à l'heure, mais il faut tenir en compte que c'est pas tous les chiens qui vont apprécier courir. Hein, si on a des chiens avec des douleurs physiques, si on a des chiens brachycéphales avec des difficultés respiratoires, par exemple, ben c'est probablement pas l'activité la plus adaptée pour eux. Puis ça se peut que vous ayez un chien qui n'a pas de limitation physique et qui aime tout simplement pas ça. Je me rappelle, moi, quand on était au secondaire, on devait faire des courses navettes où est-ce qu'on avait comme un cône, puis là, il fallait courir d'un cône. Puis là, il fallait revenir en courant vers l'autre compte, puis faire des allers-retours comme ça. Et j'haïssais ça! Alors qu'il y a d'autres élèves qui trouvaient ça vraiment extraordinaire. Puis on avait aussi, une fois par année, on devait faire... on avait une piste de course, on devait courir la piste de course au complet. Puis j'haïssais ça aussi, faire ça. Donc, ça se peut que vous ayez juste un chien qui aime pas ça courir, comme il y en a des humains qui aiment pas ça courir. Et t'en as qui aiment ça, donc vraiment, c'est à vous de voir qu'est-ce que votre chien aime. Mais par rapport à la course aussi, je voudrais ajouter que des fois, c'est ça, on a un peu cette impression-là que, bon, si on a un chien à haut niveau d'énergie, par exemple, ou si on a un chien qui a des problèmes comportementaux, mais on se dit, hey, on va les faire courir à fond là, pour les brûler raides. Fait que là, ils vont être tellement épuisés, ben là, ils n'auront plus de problèmes de comportement parce que ça va les avoir calmés. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on crée des athlètes. Et ça se peut que, à un moment donné, nous, on ne soit plus capable de suivre notre chien. Fait qu'on va avoir. On va bâtir leur endurance à la course. Et au départ, ce qui les épuisait, les épuisera plus. Et il faudra les faire courir plus longtemps, plus intensément pour arriver au même résultat. Puis, même chose, justement, mettre son chien sur un tapis roulant, c'est différent que d'aller courir avec son chien dehors. Parce que, ben dehors, il peut bénéficier de, bon, les odeurs, il peut voir le paysage. Tu sais, c'est la même chose pour nous, là, quand on court sur un tapis roulant versus courir dehors. C'est pas la même expérience, donc c'est pas la même chose pour le chien. ils font la différence. Fait que, oui, si vous habituez votre chien au tapis roulant et tout ça, ça peut être une option intéressante, hein, surtout nous... avec les hivers qu'on peut connaître, des fois, aller prendre une marche, on oublie ça parce que les trottoirs sont tellement glissants que on peut pas se le permettre. Là. Faut attendre qu'on soit venu les déglacer là, pour pouvoir penser les emprunter. Là. Fait que oui, ça peut être une option intéressante, mais faut pas penser que c'est pareil que d'aller courir dehors avec notre chien. C'est moins... Au niveau, justement, de stimulation mentale, c'est moins intéressant, je dirais. Donc oui, on va avoir les bénéfices de l'exercice physique, mais on n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes bénéfices que l'exercice physique qui se fait à l'extérieur dans un environnement qui est stimulant. Puis avec, justement, l'exercice intense comme la course, bien, on veut faire attention avec nos jeunes chiots. Parce qu'on ne veut pas créer des déformations musculo-squelettiques en faisant de l'activité physique trop intense. Puis, ben nos seniors, ben, on veut pas les blesser, on ne veut pas les épuiser en les poussant trop fort. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui s'applique en fait à tous les types d'exercices, là, qui est la rhabdomyolyse d'effort. Et... moi, j'ai appris ce terme-là dans le monde des chevaux, mais la rhabdomyolyse d'effort, ça se retrouve chez les chiens, ça se retrouve chez les humains aussi. Et chez les chevaux, on appelle ça également la maladie des os noirs. Donc, c'est ces chevaux-là, souvent, qui, par exemple, vont rester au box, et là, on va les prendre, on va les faire travailler très, très, très fort, et là, on les remet au box. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, ils ont énormément d'acide lactique qui se retrouve dans leurs muscles. Et c'est tellement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Et on appelle ça la maladie des os noirs parce que ben, l'urine va devenir plus foncée parce que justement, ça va évacuer l'acide lactique qui est accumulé dans les muscles. Et ben là, vous allez me dire, OK, ben c'est quoi le problème? C'est juste ça donne des douleurs musculaires que ça fait que l'urine est plus foncée. Qu'est-ce que ça fait? Ben c'est que ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc, ça peut être quand même assez grave. Donc, vraiment, quand on veut se mettre à de l'exercice, ben on veut aller graduellement parce que justement, ben on veut pas avoir de blessure, mais on voudrait pas non plus avoir un effet néfaste là, comme la rhabdomyolyse d'effort. Mais là, vous allez me dire, mais Audrey, t'es pas trop en train de nous convaincre de faire de l'exercice physique avec notre chien. Ce que je veux dire, en fait, c'est vraiment l'importance d'y aller graduellement, et ça, peu importe le type d'exercice physique que vous faites avec votre chien. Et là, ben oui, on a parlé de la marche, de la randonnée, de la course. Mais on peut penser, par exemple, à la nage. Donc, c'est pas tous les chiens qui vont apprécier l'eau. Mais si votre chien aime l'eau, la nage, c'est vraiment un bel exercice physique parce que justement, ça a l'avantage de ne pas mettre de pression sur les articulations. Donc, ça peut être vraiment une belle activité à faire avec votre chien. Puis, ben sinon, il y a tout ce qui est sport canin, donc agilité, parcours urbain. Hein, c'est une façon aussi, justement, où est-ce qu'on pourrait, on peut pimenter notre marche quotidienne avec, en faisant du parcours avec notre chien. Donc, utiliser le mobilier urbain comme les trottoirs, les tables à pique-nique pour s'en servir un peu comme un parcours d'obstacles, si on veut. Donc, c'est une façon d'intégrer plus d'activités physiques à notre marche. Puis le parcours urbain, ben c'est intéressant aussi justement pour les gens comme moi qui sont propriétaires d'un chien réactif parce que de un, ben on leur donne quelque chose à faire. Fait qu'au lieu d'être comme soit préoccupé là, par tous les dangers potentiels dans l'environnement, non, c'est regarde, t'as une tâche à faire, fais ça, donc ça leur occupe l'esprit. Mais ça peut être intéressant aussi de commencer à utiliser le mobilier urbain à notre avantage, par exemple, pour s'en servir pour créer des barrières visuelles avec des déclencheurs potentiels. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant là, à intégrer dans nos activités avec notre chien. Petit aparté. Sinon, ben on pense à des activités aussi comme le herding ou... le treadball, j'avoue que je suis pas hyper familière avec ces deux sports-là, mais quand même, sachez que c'est des sports qui existent. On peut penser aussi au dog diving ou au flyball, qui sont aussi des sports canins qui peuvent être intéressants pour votre chien. Et bien entendu, ben j'ai parlé de canicross tout à l'heure, mais tous les sports de traction également, comme le backdrawing par exemple, peuvent être intéressants pour votre chien. Donc, tu sais, l'idée, c'est d'aller explorer qu'est-ce qui vous plaît, puis dans ce qui vous plaît, qu'est-ce qui plairait également à votre chien. Personnellement, je ne suis pas trop sport canin. Je me contente davantage, justement, de la randonnée pédestre et de d'autres éléments que je vais vous parler là, à l'instant. Peut-être qu'un jour, j'aimerais explorer l'agilité canine, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose vraiment dans lequel... Je me suis mouillée, mais peut-être qu'un jour ça viendra parce que je suis vraiment pas fermée, c'est juste mes circonstances de vie ont fait que je suis pas allée vers ça, mais ça me semble être un vraiment très beau sport. Puis dans tout ce que je vous ai nommé, c'est lui qui me parle le plus personnellement, mais c'est pas un jugement de valeur sur les autres sports. Je pense que chacun des sports que j'ai nommés ont leur intérêt, c'est vraiment de trouver vous, ce qui vous attire personnellement, puis... Ben après ça, ben est-ce que ça plaît à votre chien également? Parce que c'est une chose que ça vous plaise à vous, mais si ça plaît pas à votre chien, ben là, on n'est pas tout à fait dans la perspective de répondre aux besoins de notre chien si on n'est pas à l'écoute de ses préférences. Donc, je disais que j'étais pas très sport canin. Bon, à part peut-être un petit peu de parcours urbain, comme je disais là, tout à l'heure, là, mais une chose que j'aime beaucoup, c'est le fitness canin. Et là, je suis loin d'être une experte, mais j'aime faire des exercices de fitness canin de base avec Taiga. Justement, beaucoup l'hiver, quand je parlais tout à l'heure que Taiga n'est pas une fan des grands froids. Donc, quand il fait trop froid pour aller marcher dehors ou quand, ben juste des fois, la température est terrible. Qu'on a une tempête de neige, qu'il y a du verglas, ou ben dans ces temps-là, ce que je fais, ben c'est que je fais des exercices de fitness canin à l'intérieur. Bien entendu, c'est toujours important d'avoir un environnement qui est approprié, donc je travaille toujours sur une surface antidérapante lorsque je fais des exercices de fitness canin avec Taiga, parce que je voudrais pas qu'elle glisse et qu'elle se blesse. Mais c'est des choses vraiment basiques, là, comme de mettre mettre ses pattes avant sur un bloc, de transférer son poids de l'avant à l'arrière. Et l'idée, c'est que je fais des petites séances de quelques minutes. Donc, c'est sûr que c'est pas le même type d'exercice physique que d'aller marcher ou d'aller faire un sport canin. Mais justement, pour les gens qui font des sports canins, je pense que c'est très intéressant, même essentiel, de faire du fitness canin avec votre chien pour justement travailler son corps, la préparation physique qu'on veut faire au corps de notre chien, comme un athlète qui fait un sport X, qui va aller s'entraîner pour justement développer sa musculature, développer sa flexibilité, etc., pour ne pas se blesser en exécutant son sport. Mais c'est la même chose pour les chiens qui font des sports canins. Mais quand vous avez un chien comme le mien qui fait pas de sport canin, ben il y a quand même un intérêt, comme pour nous, les êtres humains, même si on fait pas un sport spécifique, on a des bénéfices à s'entraîner malgré tout. C'est un plus. Là, je parlais des mauvaises conditions météo, mais comme je disais, des fois, on a un chien qui est réactif, puis on est limité dans les sorties qu'on peut faire, puis on veut être capable quand même d'offrir de l'exercice physique à notre chien, bien, ça peut être quelque chose qu'on peut intégrer, ça, à notre quotidien pour justement avoir un peu plus de variété. Comme tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, on ne veut pas avoir un équilibre parfait, mais on veut essayer de trouver une harmonie. Bien, peut-être que le fitness canin peut faire partie de cette harmonie-là que vous essayez de développer avec votre chien. Puis, bien, il y a, bien entendu, le jeu comme le TOG. Le TOG, c'est quand même assez physique pour un chien. Donc, je vous expliquais la dernière fois que Taiga, elle aime plus les jeux de bataille. Mais quand même, elle apprécie bien le TOG. Donc, ça aussi, c'est un jeu que je vais utiliser dans une perspective d'activité physique avec elle. Taga, c'est pas une grande fan de courir, aller chercher la balle ou d'aller chercher un frisbee. Donc, c'est pas une activité que je pratique avec elle. Mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ont un chien qui aime rapporter. Moi, c'est ce que je fais par contre, parfois, c'est d'utiliser des croquettes que je lance. Donc, on lance les croquettes dans la pelouse ou dans la neige quand c'est l'hiver pour justement amener Taiga à courir un petit peu pour aller chercher sa nourriture. C'est sûr que je fais pas ça pendant une heure de temps, mais l'idée, c'est de la faire bouger un peu. Donc, ça peut être pour les gens qui ont un chien qui aime pas trop courir après les jouets, ben ça peut être une option aussi. Puis, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont utiliser des flirt poles. Je suis pas trop certaine de comment ça s'appelle en français, mais l'idée, c'est d'avoir... c'est comme un bâton avec un cordon au bout duquel il y a un jouet de style TOG accroché. L'idée, c'est que on fait bouger ça pour que le chien poursuive le jouet au bout de la corde. Personnellement, c'est pas un jeu que je fais parce que Taiga n'a pas d'intérêt. Mais avant de terminer l'épisode, j'en ai pas parlé encore, donc c'est important que je rappelle que les sujets qui sont abordés cette saison-ci sont fortement inspirés du livre « Canine Enrichment for the Real World » d'Ali Bender et Emily Strong. C'est important pour moi de donner le crédit de l'inspiration parce que, et même si je partage mon opinion personnelle au travers de tout ça, je ne veux pas prendre 100% du crédit parce que vraiment, ce livre-là a une grosse influence sur le contenu de la saison, donc c'est important pour moi de le nommer. Et pour terminer, ben justement, j'aimerais savoir, toi, c'est quoi les différents types d'activités physiques que tu fais avec ton chien? Ça m'intéresse de le savoir. Si tu as envie de me le partager, tu peux venir m'écrire soit sur Facebook à Comprendre son chien ou sur Instagram à _Audrey_Michel. Ça va me faire plaisir de te lire. Et d'ici au prochain épisode, beaucoup de plaisir avec ton chien. Bye!